Aujourd'hui, nous verrons ensemble comme Christ dans son renoncement à soi. Et la semaine dernière, nous avons vu comme Christ dans son service. Mais avant, nous avons posé les bases essentielles. Avant d'être comme Christ, notamment, nous avons parlé de demeurer en Christ. Celui qui demeure en Christ doit pouvoir marcher comme lui. Donc, si nous demeurons en Christ, nous devons être capables de marcher comme lui. Donc, marcher comme lui dans son service, qu'on a vu la semaine dernière, et marcher comme lui dans son renoncement, que nous verrons donc aujourd'hui. Pour revenir, pour résumer brièvement ce qu'on a vu la dernière fois, nous avions parlé du rôle de serviteur. L'exemple était tiré du fait que, du passage biblique qui nous montrait, Christ qui avait lavé les pieds de ses disciples, grand Dieu qu'il est, maître qu'il était, pour ses disciples-là et pour l'humanité, vu sa position vis-à-vis de Dieu, il s'est quand même abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Et c'était un exemple qu'il donnait donc à ses disciples. Donc on a parlé d'humilité, on a dit dans le service, on avait l'humilité qui était une valeur importante. Ce service-là devait être empreint d'amour et il ne devait pas chercher son propre intérêt, mais plutôt l'intérêt des autres. Et nous avions parlé aussi de ce que le modèle que Christ donnait en le faisant, c'était non seulement pour montrer qu'il prenait soin du corps physique, parce que laver les pieds des disciples montrait qu'il était en train de rafraîchir quand même aussi leurs pieds, mais il y avait aussi le côté spirituel. Donc non seulement Christ prenait soin du corps, mais il prenait aussi soin de l'esprit et de l'âme, parce que l'objectif final, c'était que les âmes puissent être sauvées. Et nous avions mis l'accent sur le fait que c'est vrai qu'on peut être engagé ou être emprunt ou disposé à pouvoir aider, à pouvoir servir peut-être des personnes qui ne connaissent pas Christ ou même des personnes qui connaissent Christ. Mais derrière cela, on doit pouvoir se rendre compte que l'objectif, ce n'était pas seulement le service physique qu'on devait voir, mais on devait regarder aussi le côté spirituel. Nous avions parlé de la persévérance et le fondement de tout ça là, le mobile de tous ces éléments-là, c'était l'amour qui devait être caractérisé par ce service qu'on pouvait faire, que ce soit dans l'église ou ailleurs, en tout cas dans le milieu où on pourrait se retrouver, le mobile principal, c'était l'amour. La question sur laquelle on s'est arrêté, et j'avais promis qu'on reviendrait quand même aujourd'hui avant de continuer, c'était de savoir si lorsque nous nous mettons à servir Christ, bon, on sait, quelqu'un qui est bien dévoué, bien engagé à servir Christ, au lieu de recevoir après des compliments en griffes, ou de la reconnaissance, voilà, je préfère ça. Au lieu de recevoir de la reconnaissance, cette personne-là, peut-être, c'est peut-être des humiliations qu'elle va recevoir, c'est peut-être des propos acerbes que cette personne va recevoir, et puis cela est décourageant. On était d'accord que cela pouvait décourager. Et j'ai poussé un peu la question plus loin pour dire, mais il arrive dans ces conditions que les personnes même peuvent décider de démissionner du service ou de la responsabilité qu'elles faisaient parce qu'elles ne se sont pas senties valorisées dans ce qu'elles ont fait, mais elles se sont senties plutôt rabaissées. La question par rapport à ça, quelle devrait être notre attitude? La personne qui a posé la question a dit, mais dans ces conditions, quelle devrait être notre attitude lorsqu'on est en face d'une telle situation où tu te mets à servir, tu es engagé, tu le fais avec joie et tout cela, mais en retour, les actions ou les propos des gens viennent te décourager. Dans ces conditions-là, comment on doit se comporter? J'ai voulu qu'on revienne là-dessus parce que notre relation chrétienne, c'est, je veux dire, j'aime le dire là, c'est pas comme on est dans un monastère. On n'est pas seul dans un monastère et puis notre gestion se fait en Dieu et nous. Mais notre relation en Christ, c'est une relation fraternelle. Donc, c'est les hommes qui vont marcher ensemble, qui vont se bousculer. C'est des hommes qui vont s'humilier. C'est des hommes qui vont s'encourager. Mais donc, dans ces conditions-là, quelle attitude on doit pouvoir adopter? On dirait que c'est là la grande question. Donc, ça, on va peut-être prendre 5 minutes pour répondre à ça, parce que dans le cours sur le renoncement, c'est des éléments aussi qui vont revenir. Mais comme j'avais promis quand même qu'on commence par là aujourd'hui, donc je relance la question pour voir. André, tu avais une réponse en suspens la dernière fois.
D'abord, la parole de Dieu nous exhorte. On t'a fait connaître, Wab, ce qui est bien, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec et que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. En principe, dans la vie chrétienne, on doit marcher dans l'humilité. Et puis, Moi, je crois que quand on est dans une intimité avec Dieu, quand on est en communion avec Dieu, quand on est rempli de son esprit, je pense qu'on ne s'accroche pas dans les fleurs du tapis que les gens ne sont pas reconnaissants avec nous. Parce que la parole de Dieu nous dit que la joie du Seigneur, c'est notre force.
Oui.
C'est ça notre force. C'est notre communion avec Dieu. Si on a, quand on est en communion avec Dieu, quand on est vraiment en unité avec le Seigneur, on n'accorde pas d'importance à ces choses-là.
Okay.
Si on accorde d'importance au fait que la personne est, manque de gratitude envers nous ou quelque chose de même, il y a quelque chose qui cloche dans ta relation avec le Seigneur.
Okay.
Parce que la parole de Dieu, on fait jamais l'unanimité. C'est impossible de faire l'unanimité dans ce qu'on dit. C'est comme... Il faut que... Tu peux pas plaire... Il y a
okay.
toujours des gens à qui tu vas déplaire. Et puis, tu dois t'accrocher au fait que c'est au Seigneur que tu dois plaire en premier. Pas au monde. Il y en a que tu vas décevoir. Tu es un pécheur, tout le monde est...
Donc, dans la réponse que le frère donne, en résumé, le premier élément qu'on doit pouvoir retenir, c'est que c'est... Quelle est notre position vis-à-vis de Christ? Donc, c'est Christ, on plaît plutôt à Christ qu'aux hommes. Donc, la première personne qu'on doit pouvoir regarder, ce ne sont pas les gens autour de nous dans le service qu'on fait, mais le service qu'on fait, c'est pour plaire à Dieu. Donc, c'est Dieu qu'on sait en premier. Deuxième élément dans la réponse qu'il vient de donner, c'est que on ne doit pas chercher notre gratitude, notre propre satisfaction. C'est-à-dire, je sers pour être satisfait. C'est vrai. J'avoue qu'on va servir pour être satisfait soi-même, pour être à l'aise soi-même, pour être heureux dans le service qu'on fait. Mais on ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour Dieu. Donc, en gros, c'est ce que je peux apporter comme résumé de ce qu'il a dit. Oui. Reprends. Oui. Le prophète n'est jamais reconnu. Nul n'est prophète chez soi. Hein. Mais, bon, OK. Ça me poussait vers une autre question, mais on va la circonscrire là. C'est-à-dire, donc, on va retenir que nul n'est prophète chez soi. Non, mais je vais la poser parce que c'est bon pour notre édification. C'est-à-dire, là, nous sommes dans un milieu chrétien. Nul n'est prophète chez soi, ça sera pour... Peut-être dans un milieu où les gens peut-être ne connaissent pas le Seigneur. On dit, nul n'est prophète chez soi. Mais ici, on est dans un milieu chrétien, dans une communauté chrétienne où tout le monde est censé s'aimer, où tout le monde est censé avoir des relations, je dirais, en griffe parfaite, où tout le monde est censé marcher selon Christ. Parce que, c'est-à-dire, chaque enfant de Dieu doit pouvoir marcher comme Christ, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est dans ces circonstances-là, effectivement, qu'il y a des problèmes et c'est ce qu'on doit pouvoir résoudre. Mais donc, en tant que chrétien, d'abord, il y a celui qui fait le service, mais il y a celui aussi qui reçoit le service. Donc, si celui qui reçoit le service est chrétien aussi, ça veut dire que le comportement d'humilité, là, c'est pas seulement celui qui donne le service, mais c'est aussi celui qui reçoit le service. Donc, c'est-à-dire, ça prend les deux bords. Ça prend les deux bords. Mais l'élément principal... Lorsqu'on va servir, c'est-à-dire c'est de regarder à Christ. C'est-à-dire tout ce que vous faites, on le fait non seulement pour les hommes, mais on le fait pour Dieu. C'est ce que Colossiens nous dit. C'est-à-dire on sert avec joie, mais pour Dieu. Il va arriver effectivement qu'il y ait peut-être des incompréhensions. Je préfère le mot encore incompréhension. Parce que quand il y a des incompréhensions, on peut par la suite s'arranger et puis se comprendre. C'est-à-dire il peut y avoir des écarts dans la gestion d'une situation, mais cela ne devrait pas venir être un nœud pour empêcher que l'œuvre avance. Un obstacle à l'avancement de l'œuvre. C'est normal que, quand on sait, c'est normal que des fois on ait des critiques. Parce que c'est des critiques des fois qui vont édifier l'œuvre. Mais si on n'est pas préparé à recevoir des critiques dans le ministère, dans l'œuvre qu'on fait, c'est là aussi il y a un problème. Donc c'est là que revient l'humilité. Tout à fait. Donc, des critiques constructives. Donc, qui nous permettent d'avancer, d'aller de l'avant. Mais quand l'objectif derrière est de détruire, Je dirais c'est ce qui est démoniaque. Permettez que j'utilise le mot démoniaque. Hein, parce que ça ne vient pas de Dieu. Quand c'est pour détruire, ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'objectif du diable, on dit, il est venu pour égorger, pour détruire, pour tuer. Ça, c'est son objectif principal. Et puis, il va empêcher que l'œuvre de Dieu avance. Donc, lorsque c'est des actions qu'on va poser, qui vont venir freiner l'œuvre de Dieu, c'est que là, il y a un problème. Mais tant que ça peut faire avancer l'œuvre de Dieu, on doit pouvoir les prendre avec de l'humilité et puis aller de l'avant. Deuxièmement, si nous arrive de vouloir démissionner, c'est-à-dire après, dans le service, il arrive, parce qu'effectivement, il y a des serviteurs de Dieu qui démissionnent, qui disent, bon, ok, moi, je dépose le tablier, et puis faites-le. Mais tellement ils se sentent blessés ou déçus de l'environnement dans lequel ils sont, dans ces attitudes-là, ce qu'il faut faire, c'est de prier. Ce qu'il faut faire, c'est de prier. C'est-à-dire, quand déjà, au fond de nous-mêmes, on commence à avoir des pincements de cœur, on commence à avoir, au fond de nous-mêmes, de l'amertume, faut qu'on commence par prier. C'est-à-dire, c'est que quelque chose ne va pas. Faut qu'on commence à prier. Donc, c'est pour ajouter à ce qu'on a dit, à l'humilité, à la position qu'on donne à Dieu, la puissance de la prière dedans. Parce que c'est la prière qui va venir ôter de nos cœurs ces amertumes-là. C'est la prière qui va venir guérir, je dirais même, notre cœur qui se sent dans la douleur, qui se sent déçu. C'est-à-dire, non seulement on va prier pour nos cœurs, mais un autre secret, on va prier pour, je veux dire, si c'est pour l'environnement ou bien si c'est pour la personne pour laquelle on pense, par laquelle on pense du moins s'être blessé. Et la meilleure façon de gérer une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire quand on sent effectivement qu'une relation est difficile avec quelqu'un, ou des fois même, peut-être supporter un individu ou une personne devient difficile. Je le dis franchement parce que c'est des choses qu'on vit et puis c'est la vie courante. Voilà. C'est pratico-pratique, j'aime ça. Ok? La seule façon pour nous permettre de pouvoir non seulement aimer et supporter la personne, c'est de commencer à prier pour elle. C'est de commencer à prier même pour les besoins de la personne. C'est-à-dire, des fois, on va se mettre dans une position où on va prier, on va plutôt chercher pour nous-mêmes une défense, une guérison personnelle pour nous-mêmes. Mais quand on se met à prier pour l'individu, lorsqu'on se met à prier pour la personne elle-même, on va commencer à développer de l'affection et de l'amour pour cette personne. Même pour nos collègues de travail, on va commencer à avoir de l'affection pour cette personne parce que j'emploierai pas le mot magie, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire le fait de prier pour ses ennemis. C'est pas pourquoi le Seigneur nous le demande. Hein? Parce que dedans, il y a la guérison et il y a la restauration.
Et aussi, dans les événements où on a été contrarié, où on a été blessé, Dieu veut travailler notre orgueil aussi. On a toute la chair, puis des fois, on donne tout notre cœur pour faire un travail pour le Seigneur. Puis quelqu'un vient faire un obstacle par une remarque désobligeante. Mais en réalité, on devrait regarder aussi si j'ai été blessé par cette remarque-là. Est-ce que j'ai encore de l'orgueil? J'ai-tu encore quelque chose en réalité qui n'est pas guéri par cette remarque-là? Puis en réalité, l'autre aussi est peut-être jeune dans la foi. Il y a un manque de maturité, c'est vrai. Mais en même temps, comme tu disais tantôt, c'est formateur pour notre sanctification personnelle.
Donc, pour notre sanctification personnelle, des fois, on va recevoir des remarques désobligeantes. Mais on doit pouvoir, lorsqu'on les reçoit, on doit pouvoir se remettre en cause. À l'époque, on nous disait la remise en cause est commerciale. Donc, c'est ça. On doit pouvoir se remettre en cause. Lorsqu'on a une remarque, c'est vrai, des fois, sur le champ, on peut le prendre avec de la peine et de la douleur. Mais lorsqu'on se retire au pied du Seigneur, toujours, on doit pouvoir se repositionner. Ah, mais si cette remarque-là m'a été faite, est-ce que réellement, Dieu ne veut pas travailler au travers de cela? Donc, c'est comme ça que le Seigneur va nous aider à passer souvent des moments de colère, des moments difficiles qu'on va pouvoir faire. Et puis, pour finir sur ce chapitre-là, un autre élément encore que je voudrais qu'on puisse retenir ici, c'est lorsque nous-mêmes, on commence à apprécier, à faire des remarques ou à apprécier, un service ou une action, ou même apporter, une appréciation sur un comportement. Et moi, ce que je vais faire, quand je me mets à trouver qu'une personne est, à dire, ah, mais cette personne-là, elle est orgueilleuse. Cette personne-là, je dis je donne des qualificatifs comme ça pour qu'on puisse comprendre. Cette personne-là, mais je pense qu'elle est hypocrite. Ah, mais cette personne-là, je pense. Quand je commence à ce genre de choses commence par m'animer, je me repositionne moi-même. Je dis, mais si tu commences à voir ça dans la vie de l'individu, mais c'est que certainement c'est parce que tu commences à la voir. Ça commence à se développer dans ta propre vie. C'est pour ça que tu commences à le voir dans la vie de l'individu. Donc, je le dis parce que ça aussi, c'est des éléments qui nous permettent de travailler sur nous-mêmes. Parce que des fois, mais ça, c'est un frère, il est trop hypocrite. Ah, mais ça, c'est une soeur, elle est trop hypocrite. Mais pendant qu'il est trop hypocrite, là, le pouce, il vient vers toi. Ah, mais ça, c'est ça. Est-ce qu'on voit ça? Ah, mais pendant que c'est tellement que l'hypocrisie, c'est toi-même qui es en train de la développer sans t'en rendre compte.
Est-ce que déjà pensé que t'es hypocrite?
C'est ça. Donc, c'est une façon de dire, au fait, je dis ces choses-là de façon concrète pour que ça puisse nous aider. C'est-à-dire, dès qu'on va commencer à voir ça, c'est qu'on doit pouvoir nous-mêmes se repositionner aussi dans notre mode de pensée, dans nos attitudes. Ah, mais lui-là, il est orgueilleux. Mais pendant que je dis il est orgueilleux, c'est tellement que l'orgueil même a commencé à dépasser moi-même ma tête aussi. Donc, ce sont un peu ces éléments-là. Donc, pour dire une façon de dire effectivement que comme Christ, on doit pouvoir s'attacher à l'humilité, rechercher toujours l'humilité. Comme Christ, on doit pouvoir comprendre que quand on sert, ce n'est pas les hommes que nous sommes en train de servir. Nous servons d'abord Dieu, mais pour la bénédiction des enfants de Dieu. Voilà, c'est d'abord Dieu qu'on sert pour que les enfants de Dieu puissent être édifiés, nous-mêmes y compris, parce qu'on fait partie du corps, parce que nous sommes membres les uns les autres. On donnait l'illustration que les yeux ne peuvent pas me mettre à la porte si mes pieds ne sont pas là. Je vois la belle porte et avec le mot sorti, mais les yeux ne peuvent pas m'y amener. Ça prend mes jambes pour y aller. Donc pendant qu'un a tel service, l'autre aussi a un autre service et puis on forme le corps de Christ. C'est ce qui nous fait avancer dans la foi. Amen. Ok. La question est, on va la clore parce que quand même c'est un sujet assez pertinent. Voilà, c'est un sujet assez pertinent. J'espère qu'au moins on a répondu plus ou moins à cette question-là. Donc aujourd'hui, nous voulons voir comme Christ dans son renoncement. Mais avant tout, est-ce qu'on peut ensemble définir qu'est-ce que le renoncement? Quand on parle de renoncement, c'est-à-dire quand on parle de renoncement, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? C'est-à-dire, librement, on peut parler. Oui? Quand on parle de renoncement, il parle de la repentance. Donc, comme Christ dans son renoncement, donc on parle de repentance. Donc, le renoncement à tout ce qui nous est proposé ailleurs, aux choses du monde. Donc, ne pas aimer les choses du monde. On dit, OK, ça, on laisse tomber, on renonce à cela. Donc, je vais changer renoncement ici par abandonner. Ça convient? Si je dis abandonner, OK. Donc, le frère dit, ce serait donc abandonner ou laisser tomber les choses qu'on aurait pu avoir. Peut-être qu'ils sont même nos droits, mais on va dire, non, je laisse tomber ça. OK, une dernière intervention là-dessus. Quand on parle de renoncement, on va lire deux textes qui vont nous aider là-dessus. Marc chapitre 8, verset 34. Une personne peut la prendre et puis une autre personne va prendre Matthieu 26. On va commencer par Marc. Oui, commence 31. On va le 31-34.
Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car ce que tu conçois n'est pas les choses de Dieu, et tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
Voilà. Donc ici, c'est Jésus qui il explique à ses disciples les choses qui doivent arriver, comment il va souffrir et tout cela. Et puis Pierre, fougueux Pierre, il va venir, il va dire, « Maître, viens là, j'ai quelque chose à te dire. » Il dit, « Oui, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Mais il dit, « Mais ce que tu es en train de faire là, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire aux gens là ?» Parce que nous, certainement, on est derrière toi là, mais c'est parce qu'on attend des positions. Mais tu nous parles de ta mort, tout ça là, c'est compliqué. Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Pourtant, c'est un disciple, pilier sur lequel il va s'appuyer. Il dit, « Arrière de moi, Satan. » Mais si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce d'abord à lui-même. Mais quand il dit renoncer à lui-même, c'est quoi? C'est renoncer à ses intérêts personnels. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire renoncer à ce qui...
Quand le Seigneur dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Est-ce qu'il s'adresse à Pierre ou il s'adresse à Satan?
Est-ce qu'il s'adresse à Pierre ou il s'adresse à Satan? Il s'adresse à l'individu, au fait, ou à l'esprit qui est animé, qui anime Pierre, pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre finale de Dieu, c'était quoi? C'était la mort de Christ à la croix. C'est ce que Jésus était en train d'expliquer à ses disciples, ce qu'il allait souffrir et tout cela. Et la question m'amène à voir comment Satan tentait Jésus, et puis il lui promettait, s'il lui obéissait, tout ce qu'il pourrait avoir. Mais il lui dit, arrière de moi, Satan. Non seulement ça, et puis il dit, si quelqu'un veut venir à moi. Donc, si tu veux t'engager, il dit, si tu veux t'engager à marcher avec moi, il est important, un, que tu renonces à toi-même. C'est-à-dire, ta vie, là, ne doit plus avoir de sens pour toi. C'est-à-dire, tu dois pouvoir vivre pour moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, qu'il s'engage et qu'il me suive. Matthieu 26, à partir du verset, nous allons commencer à partir du verset 36 aussi. Donc, on dit à trois reprises, il dit les mêmes paroles. Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, peux-tu éloigner cette coupe de moi? Est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais à la fin, il dit, non pas ma volonté, mais toi, ta volonté. Donc ici, il se soumettait effectivement à la volonté de Dieu. Donc, renoncer, on a dit renoncer, c'est laisser tomber, on a parlé de laisser tomber peut-être nos propres intérêts, laisser tomber des choses auxquelles on pourrait avoir droit. Renoncer, c'est faire preuve d'abnégation. C'est faire preuve de soumission parce qu'on renonce à quelque chose pour s'attacher à quelque chose. Dans notre situation, c'est ça. On va renoncer à quelque chose, mais pour venir s'attacher à quelque chose.
On a fini et Dieu, on a l'exemple du renoncement. C'est quoi exactement? Il vient de vous à 11. De fait, de parti ou par bien vouloir, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez à vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un saint homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Le renoncement, c'est ça. Donc, Christ qui renonce à sa position, c'est-à-dire à sa position de Dieu, qui prend une position humaine pour un sacrifice que Dieu voulait pour lui-même, pour l'humanité du moins. Donc le renoncement, c'est l'abandon de nos propres intérêts. C'est l'abandon des choses auxquelles on pourrait avoir droit ou auxquelles on a droit. On renonce à ça, mais pour s'attacher à quelque chose. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc renoncer à tout ce qui pourrait être un obstacle, je dirais, à notre marche avec Dieu. Tout ce qui pourrait, tout ce qui peut constituer pour nous une passion, je pourrais même dire en griffe, une bonne passion. Mais tant que cette passion-là, à partir du moment où cette passion-là devient un obstacle à notre engagement, à notre service, à notre marche avec Dieu, on doit pouvoir renoncer à cela. Ici, j'ai noté, se renoncer, c'est faire abnégation complète de soi-même. La définition d'un dictionnaire biblique qui dit, se renoncer, c'est faire abnégation complète de soi-même. Ceci en faveur de la cause ou de la personne que l'on sert. L'exemple, donc l'exemple de Moïse et puis l'exemple de Paul qui ont vécu une vie de renoncement. Renoncement par rapport à la personne ou à la cause dans laquelle ils étaient engagés. Donc la conséquence de cette attitude de Jésus est d'amener le chrétien à renoncer d'abord à ses passions, ensuite à renoncer à son propre être et enfin à se mettre à la disposition de Dieu et de Christ pour le service des frères. Donc, le renoncement à soi doit pouvoir nous amener premièrement en tant que chrétien, à renoncer à nos passions. Quelqu'un peut lire peut-être Galates 5, verset 24. Donc, un, à renoncer à nos passions. Donc, lorsqu'on s'attache à Christ, lorsqu'on veut, on veut vivre une vie de renoncement comme Christ, parce qu'on veut vivre l'exemple de Christ, la première des choses qu'on doit pouvoir faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est renoncer à nos passions. Quelqu'un peut le lire, hein? Galates 5, c'est ça. On dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en tant que chrétien, le renoncement, comme Christ là, premier élément, c'est renoncer à nos passions. Comme deuxième élément, c'est renoncer à son propre être et à ses propres intérêts. Donc, c'est ça le deuxième élément du renoncement. Donc, premier élément, c'est-à-dire laisser tomber nos passions. Deuxième élément, renoncer à notre être, nous-mêmes à notre être. C'est-à-dire, c'est Christ qui prend notre place. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et troisième élément ici, dans le renoncement, c'est-à-dire quand on a renoncé à tout, quand ces deux éléments sont accomplis, la troisième démarche à faire, c'est être à la disposition de Dieu. Parce qu'on peut renoncer à ces choses-là et puis ne pas être à la disposition de Dieu. C'est là qu'on va rejoindre. En griffe, là, je dirais, la repentance dont parlait le frère. Ça, on va rejoindre ça. Donc, on va se mettre à la disposition de Dieu. Et quatrième élément, si on veut le mettre, on parlera du service qu'on va faire aussi pour Dieu, pour la bénédiction des frères. Mais le renoncement, effectivement, s'applique dans notre intime relation avec Dieu. Donc, il s'applique aussi dans nos relations les uns avec les autres. Et il s'applique aussi dans nos choix et dans nos prises de décision. En somme, cela reviendrait à nous poser constamment la question suivante. Que ferait Jésus à ma place? Dans chaque situation, on va se retrouver. Mais que ferait Jésus à notre place? Alors, comment vivre le renoncement à soi-même comme Christ? Comment on peut vivre le renoncement à soi-même comme Christ l'a vécu? Premier élément que j'ai pu noter, c'est en souffrant injustement. 1 Pierre 2, 19 à 25. 1 Pierre 2, 19 à 25. Donc, on va voir comment on peut vivre le renoncement, comment Christ a vécu le renoncement. Et puis, comment on peut donc l'appliquer à nous-mêmes? Est-ce que les exemples de renoncement ou la façon dont le renoncement a été vécu par Christ, cela s'applique à nous? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? En parenthèse, je dis, mais Christ était Dieu. Christ était tout-puissant. Quand il dit à Pierre, mais laisse-les m'attraper, je paraphrase, hein, laisse-les m'attraper, tu n'as même pas besoin de couper l'oreille de Malchus. Parce que si je veux, là, c'est des anges. C'est une multitude d'anges qui viendront combattre moi. Mais ça, c'est Dieu qui est en train de parler là. Il dit, non, laisse, donne l'oreille et puis je mets à sa place et puis on avance. Mais c'est lui qui a vécu le renoncement. Mais nous, est-ce qu'on peut vivre le renoncement comme Christ? Parce que c'est lui-même qui nous le dit. Il dit, quand on demeure en lui, on doit pouvoir marcher comme lui. Donc, ça veut dire qu'on peut vivre le renoncement comme Christ l'a vécu. 1 Pierre 2, 19 à 25. Donc ici, Christ nous donne un modèle de renoncement. C'est-à-dire, dans la souffrance, il voyait la main de Dieu dans la souffrance. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on va dans le renoncement qu'on doit pouvoir vivre là, on doit pouvoir comprendre que même dans la souffrance, la main de Dieu est en train de se manifester. C'est ce que le texte nous dit. La main de Dieu était présente dans tout ce qui pourrait lui arriver. Qu'il s'agisse de quelques injustices, dans des choses graves ou de quelques petites offenses, avant d'arrêter nos pensées sur la personne qui en est la cause, recueillons-nous et rappelons-nous ceci. Dieu permet cette épreuve sur ma route pour voir si je le glorifierai par là. Parce que dans le texte qu'on vient de lire, c'est-à-dire même dans les souffrances injustes, c'était le nom de Dieu qui était glorifié. Donc, dans le renoncement, c'est-à-dire la souffrance, dans la souffrance, la manifestation, je dirais, de la présence de Dieu est présente. Et puis, on a vu, la dernière fois, nous avons vu effectivement que dans la, Paul se plaisait dans la souffrance. Il recherchait même des fois dans la souffrance, pourrais-je dire, en griffe, parce que il savait que quand il était faible, la puissance de Dieu se manifestait. Mais la puissance de Dieu aussi se manifeste dans les moments de souffrance que nous pouvons avoir. Donc, dans la souffrance, on doit pouvoir voir la main de Dieu. C'est vrai que la souffrance, ça va nous faire mal. La souffrance va nous faire pleurer des fois. La souffrance va nous faire, je peux dire, souffrir encore. Je peux utiliser deux fois ça. Donc, la souffrance va nous faire souffrir. Mais dans cette souffrance-là, voyons la main de Dieu. Mais je peux poser la question, mais comment on peut voir la main de Dieu dans cette souffrance-là? On va voir la main de Dieu dans cette souffrance parce que Dieu va nous faire passer à travers. On va voir la main de Dieu dans cette souffrance-là parce que Dieu va glorifier son nom. Lorsqu'on a lu le texte de Gethsémané, le Seigneur lui-même a dit, mais c'est parce que c'était une souffrance pour lui. Mais si tu peux éloigner cette coupe de moi-là, fais-le. On nous dit qu'il est allé à trois reprises. Ça veut dire qu'il a insisté auprès de Dieu pour dire, ah, mais éloigne de moi cette coupe-là, parce que elle devient difficile, elle devient lourde. Mais à la fin, il dit, mais non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Mais la volonté de Dieu ici-là, c'était d'aller à la croix, d'amener Christ à la croix. Mais Christ a regardé la croix devenait pénible, la croix devenait difficile. Il a dit, mais éloigne de moi cette croix-là, si possible. Mais Dieu dit, non, ma volonté, c'est la croix. Donc Christ a dit, ok, je renonce à mon désir de ne pas aller à la croix, et je me soumets à toi, et je vais à la croix. Il y a une souffrance dedans. Mais la victoire de la souffrance de la croix, c'est notre restauration aujourd'hui ici. Et c'est l'élévation de Christ même que nous faisons aujourd'hui. Donc, pour dire effectivement que dans la souffrance, le nom de Dieu est glorifié. Comment faire en sorte que dans la souffrance, on puisse être en paix, on puisse nous appuyer sur le Seigneur? C'est d'aller à ses pieds, c'est de nous approcher du Seigneur. Demander au Seigneur de nous donner la force de persévérer. Demander au Seigneur de nous donner la force de supporter. Jacques nous le dit, il dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles vous pouvez passer. » Parce que l'épreuve de notre foi a des conséquences aussi. Jacques 1, à partir du verset 2, il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Et par la suite, ils disent, « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. » Parce que Dieu glorifie son nom aussi dans la souffrance. Lorsque je passe par des moments difficiles, lorsque mon corps est mortifié, lorsque mon âme souffre, lorsque mon esprit est perturbé, lorsque je me sens mal et qu'autour de moi, je vais me retrouver seul, c'est-à-dire tout ce que les gens vont me dire autour, c'est comme si ça venait cogner à des portes, mais ça ne rentre pas. Seulement, j'ai besoin de me retrouver seul. Mais en ce moment-là, on doit pouvoir comprendre que Christ est là à nos côtés. Et on doit pouvoir aller à ses pieds. Et c'est alors qu'il nous relève. C'est alors qu'il nous donne la force. C'est alors qu'il va nous permettre même de passer de façon extraordinaire par ces épreuves-là. Et après, quand on se tourne et puis on regarde ces épreuves, on dit, « Ah, mais j'ai pu passer. » C'est comme si on traversait le feu. Imaginez les pompiers qui vont peut-être à l'inspection, ils vont rentrer dans une maison pleine de flammes, mais ils vont y aller puis ressortent. Donc c'est comme ça. Dieu est avec nous dans les moments, dans les souffrances, dans les moments difficiles pour glorifier son nom. Donc Christ nous montre ici l'exemple pour dire effectivement que le renoncement à soi aussi se manifeste dans les souffrances. Donc, Christ aussi croyait que Dieu prendrait soin de ses droits et de son honneur, de ses honneurs. On a dit tout à l'heure, c'était laisser tomber nos droits et puis nous attacher à Christ. Par moments, nos droits sont brimés parce que dans le texte qu'on a lu, on parlait de souffrir. On nous fait souffrir des fois injustement à cause du nom de Christ. Et des fois, on pense qu'on perd tous nos droits. Mais Dieu, il a un autre nom. Ce nom-là, c'est le Dieu de justice. Amen. Son nom, c'est le Dieu de justice. Donc lui-même, il prend soin de nos droits, il prend soin de nos honneurs, où des fois on pense que nos honneurs sont bafoués, nos droits sont spoliés. Mais le Dieu de justice est capable de rétablir ces droits-là. On va souffrir, mais Dieu est capable de rétablir ces droits-là.
C'est quand le Seigneur a dit au début du sermon sur la montagne, il a répété « Heureux, heureux serez-vous, heureux serez-vous », puis fini « Heureux, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. »
Amen. Et ce texte me rappelle, j'ai un frère qui me disait, souvent quand on va prier tout cela, il observait effectivement que, on cherchait, « Ah, mais Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Et puis, au fait, c'est de la richesse ou des éléments matériels, on va souvent prier. Plus concrètement, comme on dit, c'est notre liste d'épicerie. Hein. Donc, on dit « Seigneur » et puis, après, il nous interpelle et puis il me dit « Mais, ah, mais c'est vrai, on a prié pour ça. Mais est-ce qu'on oublie que, des fois même, la persécution fait partie des bénédictions que le Seigneur a promis pour nous ?» C'est vrai. Ça veut dire, des fois, on va être persécuté. Mais la joie de cette persécution, c'est qu'à la fin, c'est le nom du Seigneur qui est glorifié. C'est ce qu'on a lu dans le texte précédent. C'est-à-dire, c'est le nom du Seigneur qui est glorifié. On va être persécuté, c'est vrai, mais le nom du Seigneur est glorifié. J'écoutais, Richard Wundbrand, c'est un pasteur qui dans le milieu communiste. Et puis, je suivais une de ses vidéos une fois, et puis c'est des églises persécutées. C'est des églises persécutées. Et puis, il parlait un peu, il rendait le témoignage comment ils ont souffert en prison. Et puis, jusqu'à une journée où ils étaient avec des frères, il a dit avec des frères chrétiens, ils avaient été emprisonnés. Et dans leur réflexion, ils ont dit, mais est-ce qu'on peut faire la Sainte-Seine? Mais ils n'ont rien pour faire la Sainte-Seine. Et puis, il a dit, on a fait la Sainte-Seine avec rien. Et dans son message, il disait, rien était quelque chose. C'est-à-dire, ils avaient des signes. Il dit, OK, puisqu'on veut faire la Sainte-Seine, on n'a rien, on va prier, et puis on va dire qu'on fait la Sainte-Seine. Donc, au fait, je donne cet exemple pour montrer que, c'est-à-dire, dans la souffrance, ces hommes de Dieu-là avaient une espérance. Ce n'était plus le corps physique qui les intéressait, ce n'était plus le bien matériel qui les intéressait, mais ce qui les intéressait, c'était non seulement leur relation avec Dieu, mais la récompense que Dieu allait leur donner. Et dans ce témoignage, où il disait qu'il s'était séparé de son épouse pendant 14 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Ça montre combien de fois, quand on est attaché, on se sent crucifié avec Christ. La persévérance, le soutien qu'on peut revenir, ce ne sont pas nos forces. Parce qu'arrivé un moment, nos forces ne peuvent pas. Nos forces physiques nous lâchent. On ne peut rien faire. Mais c'est l'Esprit de Dieu même qui va nous conduire. C'est l'Esprit de Dieu même qui va nous donner la force de surmonter. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la force de persévérer, la force d'aimer même ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc c'est un peu ça. Christ croyait à la puissance de l'amour qui sait souffrir. Et comme la sœur l'a mentionné tout à l'heure, effectivement, la souffrance est une grâce. Deuxièmement, Christ nous montre le renoncement à travers la crucifixion. Et donc, il dit, en étant crucifié avec lui. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Celui qui le trouve, le lit. Donc, le renoncement va se vivre en étant crucifié avec Christ. C'est-à-dire, si on est crucifié avec Christ. C'est-à-dire, comme le texte dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, cela implique quoi? Cela implique que notre vieille nature, notre vieil homme, a été crucifié avec lui. Pour ceux qui notent, on peut noter Romains 6, verset 6. Donc, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Romains 6, verset 6. Romains 6, 6. C'est être affranchi de la domination du péché. C'est être racheté et vainqueur. Nous sommes unis à Christ. Christ vit en nous. Parce qu'on donne l'image de la croix. Très souvent, on parle de la croix. Et dans l'image de la croix, on va voir juste la crucifixion. Et quand je préparais le test, je dis, mais c'est vrai, parce que moi, souvent, quand j'avais pensé à la croix, et puis je parlais de mes péchés, j'ai dit, mais Christ a pris mes péchés à la croix, il y a près de 2000 ans. Christ a pris mes péchés à la croix. Et puis, il prend mes péchés encore aujourd'hui. Tout ça, là, se manifeste à la croix. Mais est-ce que ça s'arrête seulement à la croix? Non. Christ me rend plus que vainqueur. C'est ça aussi la puissance de la croix. Il me rend plus que vainqueur sur la vieille nature, sur le vieil homme, parce que ce n'est pas le nouvel homme qui est crucifié à la croix, mais c'est ma vieille nature qui est crucifiée à la croix. Donc si ma vieille nature est crucifiée à la croix, ma nouvelle nature, ça doit être une nature de vainqueur. Est-ce que vous en saisissez un peu? Je donne l'image de la croix. J'aime beaucoup imaginer parce que je comprends mieux quand les choses sont imagées. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'image de la croix. Christ à la croix, c'est ma vieille nature qui est crucifiée. C'est ma vieille nature qui est crucifiée à la croix. Mais en ce moment, ma nouvelle nature, son rôle, c'est quoi? Ou bien, quelles sont les conséquences pour ma nouvelle nature? On dit, ce n'est plus moi qui vis dans la nouvelle nature, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en moi, et que Christ est vainqueur, c'est que moi aussi, je suis vainqueur. Amen. C'est ma vieille nature qui était une nature de défaite. C'est ma vieille nature là, qui était une nature peut-être d'humiliation. C'est ma vieille nature qui était une nature bourrée de péché. Mais ma nouvelle nature, là, c'est une nature de vainqueur. Une nature qui est capable de dire non au péché. Mais cette capacité de dire non au péché là ne vient pas de mes propres forces. Mais elle vient du Saint-Esprit, elle vient de Christ lui-même. Parce que ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Donc maintenant, est-ce que nous ne sommes plus des pécheurs? Est-ce que maintenant... La question m'est posée, mais je généralise là. Est-ce qu'aujourd'hui on pêche encore? Est-ce qu'aujourd'hui je pêche encore? Oui. Je pêche encore. Je pêche beaucoup même. Mais est-ce que je suis victorieux quand même? La différence entre mon ancienne nature et ma nouvelle nature, c'est que le désir de ma nouvelle nature, là, ce n'est pas de pratiquer le péché. Est-ce qu'on comprend bien? Le désir de ma nouvelle nature, là, ce n'est pas de pratiquer le péché. Mais le désir de mon ancienne nature, là, mon ancienne nature était à l'aise dans le péché. C'est-à-dire, le péché de mon ancienne nature n'avait même pas souciance de ça. Mais ma nouvelle nature aujourd'hui, là, se soucie de cela. Je ne pratique pas le péché. C'est vrai, je pêche. Mais mon désir n'est pas de pratiquer le péché. Mon désir aujourd'hui, c'est de plaire à Dieu. Mon désir, c'est de comprendre que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mon désir aujourd'hui, là, c'est de comprendre que quand j'ai péché, à cause de ce que la vieille nature a été crucifiée à la croix, à cause de ce que Christ me donne la victoire, il m'a dit dans 1 Jean 1, verset 9, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous purifier, pour vous pardonner de toute iniquité. C'est ça ma victoire, au fait. Est-ce qu'on comprend? C'est ça la vieille nature qui a été crucifiée. La nouvelle nature est une nature de victoire, est une nature de vainqueur. Mais cela ne veut pas dire que dans ma marche avec le Seigneur, je ne tombe pas. Mais quand je tombe, il vient, il me relève. Et puis il dit, on va, parce que le combat est encore. Je ne parle même pas de combat, parce que la marche, on continue encore la marche. Est-ce parce que je suis vainqueur en Christ que dans ma vie, il ne va pas se retrouver, je dirais, des tâches, des situations qui ne plaisent pas à Dieu? Non. Souvent, quand on évangélise et puis on entend ces commentaires, ah, mais les chrétiens, mais ils disent, sont chrétiens, mais ils sont les plus mauvais. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il va dire, mais ils sont mauvais, ils sont méchants, c'est les chrétiens. Il dit, oui, c'est vrai, c'est parce que je suis mauvais et méchant que Christ est venu mourir pour moi à la croix. non seulement pour me transformer, mais pour me donner l'occasion de te parler du Seigneur parce qu'il est bon. Toi aussi, il veut te transformer. Parce que si j'étais bon là, je n'allais jamais être chrétien. Mais c'est parce que je suis mauvais et méchant que Christ est venu mourir pour moi à la croix. Le médecin, il ne vient pas pour les bien portants, n'est-ce pas? Il vient pour ceux qui se sentent malades. Et moi, je me suis senti malade parce que j'étais mauvais et méchant. Je suis venu à Christ pour qu'il me guérisse. Toi aussi, il peut faire pareil pour toi. Donc, c'est ça. Donc, cela implique le fait qu'on est crucifié avec Christ. Cela implique que nous sommes plus que vainqueurs. On a une source maintenant, on a une ressource même, pourrais-je dire. On a une ressource aujourd'hui. Quand on est en Christ, on a une ressource. Donc, c'est ce que le Seigneur nous montre ici, dans le renoncement à soi, c'est que nous sommes crucifiés avec lui. Christ nous montre aussi le renoncement dans son abnégation. On dit qu'il ne cherchait pas sa propre satisfaction. C'est dans nos rapports ordinaires avec les autres que s'exerce aussi ce renoncement-là. Dans le sacrifice de lui-même aussi, Christ nous montre le renoncement. Le renoncement vient du sacrifice. Ainsi, Christ, en s'offrant à Dieu, en sacrifice, le fait pour nous. En s'offrant en sacrifice à Dieu, nous pourrions aussi renoncer entièrement à nous-mêmes. Romains 12, verset 1 et 1 Jean 3, verset 16. On va les lire, s'il vous plaît. 1 Jean 3, verset 16 et Romains 12, verset 1. Christ nous montre effectivement que dans le sacrifice de lui-même ou de nous-mêmes, on peut manifester le renoncement comme lui. Donc ici, nous sommes exhortés effectivement à offrir nos corps. On va essayer de lire les adjectifs, on va les pointer du doigt. Ça nous permet de les retenir. C'est comme ça que j'apprends, j'étudie. Donc, excusez-moi si je pratique comme ça, c'est ça. Donc, on va les faire ressortir ensemble. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Quand il parle de nos corps, il parle de tout notre être, à nous offrir nous-mêmes, comme un sacrifice vivant. Il dit un sacrifice vivant. Non seulement le sacrifice est vivant, deuxièmement, il est comment? Il est saint. Il est vivant. Deuxièmement, il est saint. Et troisièmement, il est agréable à Dieu. C'est-à-dire, non seulement il est vivant, il est saint, mais il est agréable à Dieu. Donc, l'objectif de notre sacrifice, de notre renoncement, là, c'est que ce sacrifice-là puisse être agréable à Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment on peut rendre un sacrifice vivant à Dieu? Saint et agréable à lui. Et puis, à la fin, on dit, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc, une adoration raisonnable, un service à Dieu raisonnable. Et il nous donne maintenant, au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais comment pouvons-nous rendre un culte ou un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu? En ayant confiance en lui, en ayant foi en lui, en faisant sa volonté. Donc non seulement en ayant confiance en lui, mais en faisant sa volonté. Les textes qu'on a lus précédemment dans Gethsémané, c'est un passage extraordinaire. Si vous avez le temps, prenez le temps et puis décortiquez Gethsémané. Gethsémané, on dit Christ, il crie au Seigneur, mais éloigne de moi la coupe, mais que ta volonté soit faite. Donc déjà, il y a la foi, la confiance en Dieu. Et deuxièmement, la volonté, sa volonté qui est soumise à celle de Dieu. Donc quand on entend Gethsémané, quand on entend Gethsémané, ces éléments-là doivent pouvoir revenir. La volonté de Dieu, le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Christ pour nous commence effectivement là. Comment on peut rendre un culte vivant, saint et agréable à Dieu? Mais on ne nous conformons pas au siècle présent. Parce qu'il y aurait beaucoup d'attrait. Et quand je parle d'attrait, je ne parle même pas de tout ce qu'on peut voir de matériel, mais je parle d'attrait même spirituel. Parce que le combat, il est d'abord spirituel. On aura tellement de propositions sur le plan spirituel. Tellement d'offres aujourd'hui, quand on sort, il y a tellement d'offres. Parce que l'homme est en train de chercher de la puissance. L'homme est en train de chercher de l'autorité. L'homme est en train de chercher de l'honneur et du respect. L'homme est en train de chercher la gloire. Donc, il y a tellement d'offres. tellement, je dirais, d'offres mystiques, démoniaques qui se manifestent. Et puis, effectivement, il y a la puissance des dents. Il y a l'autorité des dents. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Un sacrifice vivant. Un sacrifice qui est saint. Un sacrifice qui est agréable à lui. J'ai cru voir un doigt quelque part.
Malgré l'adversité, on loue Dieu pareil parce qu'on croit qu'il va exaucer.
Amen. Donc, malgré l'adversité, on loue Dieu pareil parce qu'on croit qu'il va exaucer. Et la main de Dieu est toujours présente dans l'adversité. On l'a vu tout à l'heure. L'adversité va représenter peut-être des souffrances. L'adversité va représenter certainement des situations difficiles par lesquelles on passe. L'adversité va représenter une situation trouble autour de nous. Mais dans cette adversité-là, où on pense qu'il n'y a même pas d'espoir, on loue Dieu parce qu'il y a une lumière qui est en train de jaillir, qui va louer. Amen. Donc la main de Dieu est présente dans l'adversité. Dans la souffrance, la main de Dieu est présente. Dans la douleur, dans la maladie, la main de Dieu est présente. Hein, n'est-ce pas le frère Jacques? La main de Dieu est présente, n'est-ce pas, dans la maladie. Dieu est capable de transformer. Dieu est capable d'agir de façon miraculeuse. Parce qu'on a un Dieu non seulement extraordinaire, on a un Dieu aussi miraculeux, on a un Dieu tout-puissant, on a un Dieu qui est grand, qui est vivant. Tout lui appartient, on a peur de quoi? Donc Christ nous apprend cela. Donc pour rendre un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est qu'on doit pouvoir nous abandonner aussi à Christ. Parce que tant qu'on dira à Christ, mais ok, moi j'ai mes intérêts ici, toi tu as tes intérêts ici. Bon, c'est vrai, mes intérêts... où je marche en toi, mais il y a ce domaine de ma vie là où c'est mes intérêts personnels. Je t'aime, mais ça là, laisse-moi gérer. Toi, gère le reste. Tant qu'on va faire ces compartiments là, on ne peut pas rendre un culte saint, un culte agréable à Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas rendre un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, parce que Dieu, il veut tout notre être. Il veut tout notre être. Il arrive des moments où on a l'impression que Dieu, c'est peut-être quand on se retrouve entre frères et Christ, entre frères en Christ. Ou bien c'est quand on se retrouve en train de parler des affaires du Seigneur. Là, on pense que le Seigneur est là. Mais le Seigneur est encore plus là quand je suis au travail. Il est encore plus là quand je suis à l'école. Pour dire que Dieu, il veut s'occuper de chaque domaine de nos vies. Chaque domaine de nos vies intéresse Dieu. Donc si on laisse Dieu agir dans chaque domaine de notre vie, il va en prendre le contrôle. Et quand il en prend le contrôle, on sera capable de nous abandonner à lui. Mais le renoncement aussi, on a parlé de nos passions. Alors on a tellement de passions, moi surtout. Des fois, c'est des passions négatives qui ne glorifient même pas Dieu. Des fois, c'est des passions même apparemment qui sont même des passions, je dirais, positives. Mais est-ce que ces passions-là ne prennent pas la place de Dieu dans ma vie? Est-ce que ces passions ne prennent pas la place de Dieu dans mon cœur? Quand je me réveille, mon premier geste, c'est des fois, ça fait rire. Mon premier geste, des fois, c'est de prendre le téléphone et puis regarder quels sont les messages que j'ai pu recevoir sur. Hein? Et puis, simplement, tu commences à regarder les nouvelles. Ah, mais il y a telle situation. Tu commences à entendre, peut-être tu te dis, bon, je dois prier à partir, je dois prier, je donne un exemple comme ça. À 8 heures, je dois prier. À 7 heures, tu prends et tu dis, bon, ok, je regarde, je vais voir. Tu as programmé à 8 heures, tu fais ta prière, ta méditation. Mais à 7 heures, tu commences. Donc, tu es dans le temps, là. À 7 heures, tu es dans le temps. Donc, tu regardes. Tu regardes. À 7 heures moins 5, tu continues. Quand l'Esprit de Dieu te dit, ah, mais tiens, on te rappelle, ah, mais on a un programme tout à l'heure, là. Tu dis, oui, oui, c'est vrai, j'ai un programme. Mais attends, il y a une nouvelle qui est très bonne. Et puis, tu avances. Quand tu regardes l'heure, il est 8h30. Ah, mais je devais prier à 8 heures. Si tu te donnais 1h30 pour prier, 1 heure de prière ou bien de méditation, il te reste juste 30 minutes. Tu dis, bon, ok, c'est pas grave, bon, je vais reprendre à 9h, à 9h. Et puis, on décale les intérêts de Dieu par rapport des fois à des choses même qui ne nous apportent rien, secondaires, qui n'ont même pas de sens. Je donne ces exemples pratiques-là parce que c'est des choses que je vis. Hein? Et je suppose que si je vis, certainement, il y a une personne dans l'assemblée qui vit les mêmes choses que moi. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, je l'ai dit pour qu'on puisse s'entraider, on puisse partager. C'est ça. Donc, on s'organise comme ça. Donc, ça veut dire qu'on a parlé d'abnégation. Ça veut dire qu'il arrive des moments là, on doit faire des sacrifices. Et le mot encore sacrifice apparaît. Donc, quand on parle de sacrifice, on va parler de violence aussi sur soi. On va parler de violence aussi sur soi. Donc, arrivé à un moment donné, Quand je fais ces programmes-là, arrive un moment donné, quand mon heure sonne, je dois être capable de dire, bon, OK, mon heure a sonné. Toi, si je dois te regarder, je te le fais après. Mais l'heure est prévue pour ma méditation et pour ma prière. Donc, c'est des choses comme ça qui vont nous arriver. Gloire à Dieu. Je vais prendre 2-3 interventions pour qu'on résume, parce qu'on a assez parlé quand même. Pour qu'on résume rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de renoncer à soi, du renoncement, comme Christ. Parce que l'objectif, c'est de ressembler à Christ. Donc, comme Christ, le renoncement à soi. Donc, comme Christ dans son renoncement, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous ici? Comme Christ dans son renoncement. On veut ressembler à comme Christ dans son renoncement. Christ est bien plus compétent que nous pour gérer notre vie. Donc, on doit pouvoir s'en remettre à lui, s'abandonner à lui pour gérer notre vie. Une deuxième intervention. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce qu'on a pu retenir avec lequel on peut partir? Moi, j'ai retenu dans la souffrance aussi. Pour dire que dans la souffrance, le renoncement se manifeste aussi dans la souffrance parce que Christ est avec nous. Non seulement pour nous faire passer ces épreuves-là, mais pour donner gloire aussi au Seigneur. En étant crucifié avec lui, parce que notre vieille nature a été crucifiée à la croix, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et puis, donc, cela nous rend vainqueurs. Troisième élément, c'est le sacrifice dont on a parlé, je vais dire abondamment tout à l'heure, c'est-à-dire Christ dans son sacrifice, pouvoir nous offrir comme un sacrifice vivant, sain et agréable, qui plaît à Dieu. Et puis, dans le renoncement, on doit pouvoir rechercher la gloire de Dieu. Ce n'est pas notre propre satisfaction, ce n'est pas notre propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu, effectivement, qui est recherchée dans notre renoncement. Donc, que Dieu bénisse sa parole.